Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
18h35 et jusqu'à 19h, nous sommes ensemble pour Ça fait débat. Bonsoir à Marie-Virginie Klein.
Bonsoir.
Auteure de Femmes dirigeantes et également conseillère en communication. Bonsoir à Jean-Yves Le Borgne.
Bonsoir.
Avocat de profession et puis surtout, voilà, invité ici à Europe 1 pour parler des différents sujets d'actualité. On va dérouler le journal que vous avez entendu à l'envers, puisqu'à l'instant nous entretenions avec Alexis Corbière, député de la France Insoumise, député de NUP ou NUPES, ou de la Nouvelle Union Populaire, d'ailleurs, parce que je lui ai posé la question de savoir si on disait NUP ou NUPES, finalement il disait qu'on aimait bien la Nouvelle Union Populaire, et il avait acté d'ailleurs lui-même que ce nom n'était pas forcément le meilleur que l'ensemble avait trouvé. Vous en pensez quoi, vous, d'ailleurs, la conseillère en communication ?
Eh bien, j'en pense que... Ils ont quand même réussi, malgré ce nom, à avoir un succès absolument incroyable, et c'était pas gagné d'avance justement à cause de ce nom.
Alors plutôt...
Et donc on dit NUPES ou NUP alors ?
Bah, on sait pas. En
tout cas, d'accord.
Alexis Corbière dit Nouvelle Union Populaire, sans l'acronyme.
Bah, je pense qu'il a raison d'éviter l'acronyme qui sonne, en tout cas à mon oreille, plutôt mal. Alors je vous dis qu'il y a une grande réussite de communication malgré une sonorité peut-être pas nécessairement très favorable. J'en doute un peu. C'est-à-dire, en ce sens, si la communication, c'est faire parler de soi, oui. Mais est-ce que pour autant, ça n'est pas aussi une manière de faire parler de soi pour faire croire qu'on existe plus que la réalité ne va le démontrer bientôt ?
Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Virginie Klein ?
Alors, j'ai jeté un œil sur les intentions de vote pour les législatives, là, même s'il y a encore un mois et qu'énormément de choses peuvent se passer. C'est quand même, en termes de voix, pour l'instant, plutôt bien parti pour cette fameuse nouvelle union que moi, je vais appeler NUPES pendant ce débat. C'est assez bien parti. Et ce que je trouve assez fort, c'est qu'en fait, vous savez, tout est combat de communication. En tout cas, c'est le regard, moi, que j'ai. C'est qu'on ne parle quasiment plus du Rassemblement national ces jours-ci. Et je ne sais pas si vous avez vu la une du Point, qui titrait donc évidemment sur Jean-Luc Mélenchon, ouais, avec écrit « L'autre Le Pen ». Donc c'est-à-dire que là, on a complètement renversé la bataille de
déjà
la communication.
On compare.
Et on compare, oui, sur plusieurs points, parce que les valeurs défendues sont assez radicales dans les deux côtés. Et donc de ce point de vue-là, si on prend... La bataille de communication d'un côté et les intentions de vote pour l'instant, même s'il faut se méfier, qu'il faut les regarder avec du recul, etc., c'est quand même pas si mal.
Je crois que c'est vraiment une vision de communication. Et si vous voulez, l'avocat que je suis vous dirait, c'est pas celui qui plaide avec la voix la plus forte, la plus tonitruante, celui qui hurle dans le prétoire, qui va nécessairement convaincre le juge. D'abord, ça fait mal à l'oreille. Et ensuite,
t'attends le vécu, surtout.
Mais si vous voulez, bon, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Il a un talent oratoire exceptionnel.
Indéniable.
C'est une sorte de bête de communication. Il est très fort, son histoire de Premier ministre. Bon, soyons clairs, Élise et moi, Premier ministre, sur le plan de la crédibilité, ça ne tient pas une seconde. Parce que pour être élu Premier ministre, comme il dit, c'est-à-dire que pour qu'une nomination à Matignon résulte d'une élection, il faut avoir une majorité,
oui,
à l'Assemblée nationale.
Et vous n'y croyez pas ?
Bien sûr que non.
Pourquoi
il aura...
bien sûr que non ? Vous avez l'air tellement sûr.
Mais d'abord, ce NUPES me paraît en soi une sorte de rassemblement de personnes qui ne pensent pas la même chose. C'est une façon de sauvegarder un petit peu les meubles pour un certain nombre de formations politiques. Je pense notamment au Parti Socialiste, dont il ne faut quand même pas oublier que certains sont à NUPES et que d'autres ont refusé d'y aller, considérant que c'était une manière de renier le côté social-démocrate qui constituait leur fondement politique. Donc, je ne pense pas que soudainement, parce qu'on en parle, parce que tout ça fait du bruit, ça fasse autre chose que du bruit. Et dire, par exemple, que le Rassemblement national serait tout à coup effacé du paysage politique parce que Mélenchon fait du bruit, je crois que c'est une manière, finalement, de vivre dans l'instant et d'oublier hier.
Là où Jean-Luc Mélenchon a été extrêmement habile, c'est qu'il a dégainé juste après la présidentielle. Et il a occupé le terrain avec, justement, ces tractations interminables entre le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le PCF, ça a été plus rapide, mais il y a eu quand même ces négociations avec le PS qui ont été difficiles, où une partie, d'ailleurs, il va y avoir des dissidents dans plusieurs villes, dans plusieurs circonscriptions, des anciens socialistes. Ça a occupé le terrain pendant que Marine Le Pen. Qui a vu Marine Le Pen ces derniers temps ?
Qui a vu Marine Le Pen ? On ne sait pas. On a, non, mais elle continue son travail de terrain.
C'est la vérité
elle,
sur l'affaire avec Hébert. On ne l'a pas vu depuis...
Moi, ce que je trouve plutôt audacieux, donc risqué, donc plutôt fort d'un point de vue, encore une fois, de communication, c'est qu'il renonce, il se dit, ça sera Premier ministre ou rien. Mmh. C'est-à-dire qu'il a renoncé à devenir député. Évidemment, il y a sûrement des raisons cachées sur lesquelles on pourrait s'attarder. Mais le message envoyé, c'est quand même, moi, je serai Premier ministre ou rien, et vous, le peuple de gauche, vous avez le pouvoir de m'élire par votre vote. Parce qu'effectivement, s'il arrive majoritaire, on est peut-être encore un petit peu loin de la coupe aux lèvres, mais c'est assez audacieux et je pense qu'il veut créer une forme de petit coup d'État, d'un mouvement. Il veut essayer d'emporter les foules. Il a eu une dynamique extrêmement favorable sur la fin de l'élection présidentielle. Maintenant qu'on est dans les législatives, la dynamique ne se défait pas, elle continue. Les intentions de vote vont croissantes pour lui. Moi, je me dis, il veut redonner le pouvoir au peuple ou il veut prétendre qu'il redonne le pouvoir au peuple. Et de ce point de vue-là, jouer le tout ou rien, c'est pas mal. Surtout que finalement, Jean-Luc Mélenchon existera s'il n'est plus député. Il restera le patron de la France insoumise. Il trouvera d'autres choses. Il ne disparaîtra pas si rapidement du paysage politique.
Jean-Yves Le Born.
Je vois en vous entendant que finalement, avec un peu d'audace, on peut entraîner quelqu'un dans une sorte d'ivresse qui consiste à croire ce qui se dit alors que tout ça n'est pas crédible. En réalité, c'est vrai que Mélenchon a un culot d'enfer, c'est un de ses talents, indiscutablement.
République, c'est moi.
Mais oui, la République, c'est moi. Et puis bien d'autres choses. Je l'entendais et le voyais au 1er mai, quand il haranguait les foules avant le départ du cortège. Il était exceptionnel. C'est au fond un peu, et rien que cela me ferait avoir une sympathie esthétique, hein, pas plus. Hein. Une sympathie esthétique pour lui, c'est le dernier des grands orateurs politiques. Si vous voulez, on se dit, il y a eu un style oratoire politique sous la troisième, peut-être encore sous la quatrième. Et puis finalement, on s'est dit qu'il fallait lire un papier avec un ton un peu neutre, peut-être parce qu'on n'était pas capable de faire autrement.
Il
n'y
a pas eu d'orateur sous la Ve République.
Ah, il y a eu le général de Gaulle qui était exceptionnel, bien entendu. Non, mais je veux dire, le débat politique comme affrontement d'orateurs, c'est quelque chose qui a un peu disparu. Mais de là, par exemple, vous dites c'est un coup formidable que de dire « je serai Premier ministre ou rien », tu parles. Et si d'aventure il était candidat à la députation et qu'il fut battu, voilà une formule extraordinairement pratique pour éviter de te confronter à un échec. Alors, vous voyez ça comme une habileté? Oui, c'est vrai. Finalement, c'est une habileté que de ne pas pouvoir être battu parce qu'on ne sera pas dans la lice.
Alors, pendant ce temps, vous aurez remarqué que nous sommes le 14 mai et donc nous sommes dans le nouveau quinquennat et que le Premier ministre de ce nouveau quinquennat, si on regarde bien, c'est Jean Castex. Est-ce que c'est gênant, Marie-Virginie Klein ?
Alors, moi, je trouve qu'il a raison, Emmanuel Macron, de prendre son temps. Je ne vois pas pourquoi il se presserait, d'autant plus que, quand même, il a ce fameux Jean-Luc Mélenchon qui occupe bien le paysage et qui va influencer fortement le choix du Premier ministre. Je ne vois pas pourquoi il se presserait pour mal choisir un Premier ministre. On sait tous de toute façon, le Premier ministre, le gouvernement risquerait de rechanger aussi après les législatives. Donc, lui,
vous croyez vraiment non, à Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ?
Ah mais non, j'y crois pas. Ce que je veux juste dire, c'est que l'enjeu est tellement fort sur le choix de ce Premier ministre. On attend tous cette nomination du Premier ministre avec énormément d'impatience. Donc d'ailleurs, plus il fait attendre et plus on va être impatient plus l'attente est forte et plus la déception est potentielle et possible. Mais je pense qu'il a aucune raison de se presser, sauf une, c'est qu'il a dit lors d'un meeting la semaine dernière qu'il avait déjà choisi son Premier ministre. Moi, ça, je ne crois pas. Il le dit.
Ou sa première ministre, parce qu'il est quand même beaucoup question d'une femme.
Alors là, si vous me lancez là-dessus, attention. Hein.
Non, mais évidemment, vous êtes l'auteur de femmes dirigeantes.
Alors moi, j'ai une conviction.
Oui.
C'est qu'en fait, il n'a pas le choix. Il doit nommer une femme.
Pourquoi ?
Premier ministre. Parce que d'abord, il a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat.
Donc vous allez nous dire ce que vous avez dit dans l'opinion. Enfin, dites-le aux auditeurs d'Europe 1 qui n'auraient pas lu l'article.
Tout à fait. Ben non, mais je suis cohérente. Au moins, je ne change pas d'avis au cours de la semaine écoulée. Mais si il ne nommait pas une femme, ça voudrait dire que c'est le troisième Premier ministre qui nomme et que c'est le troisième homme qui nomme. Alors, on nous oppose toujours. Moi, suite à ma tribune, on m'a beaucoup opposé. Oui, mais ce n'est pas le sexe qui compte, c'est la compétence. Certes, mais... il y a des femmes compétentes et elles sont trouvables. Et ça donnerait un exemple.
Il y a toute une liste d'ailleurs de femmes qu'on avance pour le poste de Matignon.
Dont on dit qu'elles refuseraient le poste.
Mais pas toutes.
Pas toutes, voilà. Donc je vous dis d'ailleurs, là, le dernier nom qui circule, c'est celui de Catherine Vautrin. Donc voilà, qui fait hurler dans certaines chaumières, etc. Mais d'ailleurs, on dit qu'elle aurait accepté. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Et puis je pense que c'est vraiment le secret le mieux gardé d'Élysée. Mais vraiment, si ce n'est pas une femme, je pense que ça sera très problématique à justifier, d'autant plus que, ok, s'il y a une parité absolue dans le gouvernement, certes, mais pourquoi est-ce que le plafond de verre resterait et pourquoi on ne pourrait pas avoir enfin une femme Premier ministre ? Il n'y en a jamais eu.
D'abord, sur le premier point, vous êtes dans l'impatience. Je le constate, je vous écoute, moi pas. Pourquoi serions-nous dans l'impatience de la désignation de ce Premier ministre ? Bien entendu, c'est important. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, un Premier ministre peut être parfaitement inconnu, peut ne pas être un élu parlementaire, peut être quelqu'un qui a quoi comme mission ? Mettre en œuvre la politique décidée par le président de la République et qui fait suite à ses engagements de campagne. De telle sorte qu'au fond, on retrouve la véracité désormais assez clairement appuyé de la déclaration de Nicolas Sarkozy il y a longtemps et qui avait fait un peu scandale quand il disait que François Fillon était son collaborateur. Mais en réalité, c'est vrai. Et Jean Castex a été le premier à l'illustrer, je dirais, d'une manière peut-être plus soulignée, plus soumise en quelque sorte que beaucoup d'autres.
Plus enthousiaste aussi.
Oui, mais c'est-à-dire qu'au fond, il a accompli son mandat avec une certaine bonhomie, un certain sourire, vous avez raison. Alors, faut-il qu'il nomme une femme ? Moi, pour ma part, je n'y vois que des avantages. Je pense qu'effectivement, c'est symboliquement important qu'une femme accède à de hautes responsabilités. Mais nommer une femme, pour nommer une femme, en écartant, par exemple, une éventualité masculine qui pourrait faire l'affaire, mais qui n'aurait pas cette même valeur symbolique. Ça me fait penser, ne le prenez pas mal, cher ami, hein, mais quand vous parlez d'une femme, absolument une femme, je me souviens du général de Gaulle, vous en parliez vous-même tout à l'heure. Hein, c'est pas l'Europe, c'est une femme. Une femme, très bien, mais au fond, que ce ne soit pas une obligation. La parité dans le gouvernement me paraît une chose excellente. S'il nomme une Premier ministre, pour moi, il n'y aura aucune difficulté. Mais cette sorte d'obligation dont on ne pourrait pas sortir, c'est du sexisme à l'envers.
Ouais, alors,
Marie-Jeanique, hein.
C'est la première fois que je me fais traiter de sexiste, mais c'est
non, mais
je le prends avec beaucoup de sourire. Je pense que l'exemplarité, et notamment en politique, c'est quelque chose qui est très fort. Et je pense que nommer une femme Premier ministre, ça aurait des répercussions positives pour ces femmes-là dans tous les autres secteurs de la vie économique. Dans le CAC 40, il n'y a que 3 femmes. Et encore, elles ont été nommées il y a très peu de temps. Il y a des licornes en France, donc ces startups valorisées 1 milliard d'euros. À la tête de ces startups, il y a 0 femmes. Et c'est pourtant les 26 entreprises les plus prometteuses. Ce que je dis juste, c'est que si dans d'autres couches de la société, il n'y a pas un endroit dans lequel on peut se projeter à la première place, bon là, ça serait la deuxième, mais la presque première place, ça ne peut pas conduire à une impulsion finale. Donc je pense vraiment que ça serait générateur d'un exemple très positif pour le reste de la société, dans la culture, dans laquelle il y a aussi assez peu de femmes, dans l'économie, dans les entreprises. Voilà. Donc moi, j'y crois beaucoup. Pas effectivement, il ne faut pas qu'on se sente obligé, mais C'est comme si on dit que le Premier ministre, c'est avant tout un symbole puisqu'il exécute, autant aller jusqu'au bout.
Alors, autre sujet, et ça a été le premier sujet de notre journal à 18h, la Finlande. La Finlande qui, demain, va annoncer publiquement le fait qu'elle veut rentrer dans l'OTAN par rapport à ce qui se passe à l'est du globe. Jean-Yves Le Borne.
Ben, je dirais que c'est un peu la démonstration que celui qui veut faire triompher la force retourne les choses contre lui et qu'il ne peut pas s'inscrire dans une légitimité de son action. Je dis cela pourquoi ? Parce que la Finlande, vieux pays neutre, qui partage plus de 1000 kilomètres, 1300 kilomètres avec la Russie, tout à coup veut rentrer dans l'OTAN. Est-ce un hasard ? Évidemment non. C'est l'exemple de l'Ukraine qui tout à coup fait naître une crainte forte dans ce pays qui se dit, si je veux finalement ménager ma liberté, je n'ai qu'une solution, c'est d'appeler à l'aide l'Occident pour le cas où, par malheur, les folies auraient une extension territoriale jusqu'alors imprévue. Donc, en quelque sorte, lorsque Vladimir Poutine nous dit « je veux protéger les contreforts de l'Empire à l'Ouest », eh bien, en fait, il fait le contraire. Il appelle tous les peuples et toutes les nations qui sont proche de la Russie, a une peur qui les jette dans les bras de l'Occident d'une manière irréversible.
Est-ce que c'est pas justement le fait de demander d'adhérer à l'OTAN qui va plutôt créer ou en tout cas susciter l'ire de Vladimir Poutine qui justement va se dire « Ah bah tiens, et pourquoi pas la Finlande après l'Ukraine ?»
On peut toujours rentrer dans des colères folles quand on a suscité une réaction soi-même et que cette réaction ne vous plaît pas. Mais il faut peut-être un peu réfléchir à l'origine des choses.
Marie-Véronique.
Oui, c'est un tournant important, notamment d'un point de vue, c'est un basculement symbolique qui renforce vraiment la puissance de l'OTAN, mais aussi la puissance militaire de l'OTAN. Parce que la Finlande a, je crois, sur 5,5 millions d'habitants, 1 million de personnes mobilisables à tout moment, armées et réservistes. Donc c'est quand même très fort. Et donc c'est vrai que ça peut effrayer, en tout cas... Je ne sais pas si on peut effrayer Vladimir Poutine, mais ça peut en tout cas créer une réaction.
On peut commencer à le dire, vu l'échec militaire qu'il y a en Ukraine. Je rappelle quand même que la guerre en Ukraine, en tout cas la prise de Kharkiv, devait être une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair en 2 heures. Ça a duré plus de 2 semaines et on connaît les bastions qui continuent encore à contrer. Il y a encore un bateau russe qui s'est fait pilonner par des missiles ukrainiens dernièrement. Donc oui, je pense
ça
que
peut renforcer
vous pouvez utiliser le verbe craindre.
Ça peut renforcer cette perception en fait d'une alliance défensive qui se fait et qui est une extension vraiment de la puissance américaine. Donc ça peut raviver les tensions de la guerre froide qu'on a connue. Et puis ce qui est très impressionnant aussi, c'est que la Suède pourrait suivre. Donc il n'y a pas que la Finlande, il y a la Suède qui dans quelques jours va être amenée à se prononcer aussi. Et l'opinion s'est vraiment retournée avec la guerre en Ukraine, parce qu'en 2016, il y avait une tentative encore déjà d'adhésion de la Finlande à l'OTAN qui n'a pas abouti puisque la population s'était montrée opposée. Là, il y a 74% des Finlandais qui sont favorables à cette adhésion. Donc, il y a eu vraiment un retournement très rapide de l'opinion qui est impressionnant.
On sait que les nations neutres tiennent à leur neutralité, qui est au fond leur forme de sécurité, c'est-à-dire une manière d'être étranger à tout conflit potentiel. Et aujourd'hui, si l'opinion a changé, comme vous venez de le souligner à l'instant, c'est précisément parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des circonstances où cette neutralité pourrait être foulée aux pieds par quelqu'un qui ne respecte rien. Et finalement, quand vous dites tout ça, ça pourrait restaurer un climat de guerre froide tel qu'on l'a connu jadis du temps de l'Union soviétique. Ben oui, parce que tant que la Russie, qui est un vieux peuple européen avec lequel nous pourrions fraterniser s'il n'y avait pas cette politique qui est conduite, et qui est quoi ? Qui est un résidu de l'Union soviétique. Vladimir Poutine est une marque de l'Union soviétique, une sorte de rémanence intellectuelle et bizarre de la puissance et de l'affrontement pour le rang de première puissance. Le jour où les Russes auront connu la démocratie, parce que jusqu'à présent, ils savent ce que c'est par oui dire. Hein. Et encore, je ne suis pas sûr que ce qu'ils apprennent soit conforme à la réalité. Mais il n'y aura plus de problème. Mais pour ça, il faut peut-être que la politique change.
En
là-bas.
Attendant, ils ont une inflation de 17%. Marie-Virginie Klein ?
C'est rare qu'on ait des pays du Nord qui soient comme ça mis au centre du jeu diplomatique mondial. Enfin, je n'ai pas l'impression que dans l'histoire récente, ça a été souvent le cas. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que c'est cette neutralité finlandaise qui lui a donné et qui lui donne aujourd'hui un poids quand même très fort diplomatiquement et qui est très disproportionné à son poids réel, à son nombre d'habitants. Donc il y a le poids militaire qui est très important. C'est d'ailleurs son principal atout dans ce bras de fer. Mais d'un point de vue économique, etc., c'est vrai que c'est un basculement qui est avant tout symbolique et qui est c'est impressionnant de voir à quel point ça pourrait faire encore retourner Vladimir Poutine vers d'autres envies belliqueuses.
Mais écoutez, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ce raisonnement. Vous avez l'air de regretter cette position de la Finlande comme si elle allait pousser Poutine à être plus fou qu'il ne l'est encore. Je crois qu'il y a...
Alors qu'il n'est absolument pas fou.
Il a parlé de...
Je ne sais pas s'il est fou, mais enfin, en tout cas, il est
parti. On l'a pensé au départ.
Il est parti dans une sorte d'agressivité.
Il est dans un engrenage,
non,
c'est
certain. Je crois qu'il est important qu'il comprenne, peut-être commence-t-il à le comprendre, qu'au lieu de conforter les vagues de l'ouest de l'Empire russe, il est en train de faire en sorte que des voisins qui étaient tranquilles, qui ne cherchaient qu'à vivre paisiblement chez eux, perçoivent la Russie voisine comme une ennemie potentielle. Finalement, on est, je ne dis pas que Poutine soit fou, mais on est dans une sorte de folie grandissante. C'est mutatis mutandis, l'Afghanistan impose la burqa et la Russie nous conduit à des folies.
Jean-Yves Le Bornier, Marie-Virginie Klein pour les débats de ce 14 mai. Merci à vous. Je vous retrouve demain avec grand plaisir à 18h.